Vous écoutez RTL.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes peut-être dans votre voiture, chez vous, au travail, en train de nous écouter. Merci de votre fidélité. On est très heureux de vous retrouver pour une heure de curiosité avec Sidonie. Ça va ?
Salut Thomas, salut à tous. On est ensemble jusqu'à 15h pour faire le plein de connaissances et pour se cultiver, vous nous connaissez, dans la bonne humeur.
Alors vous le savez, on aime les sagas musicales. Et tout à l'heure, vers 14h30, c'est l'histoire d'Étienne Dao que l'on va découvrir.
Homme, 40 ans de carrière des tubes qui nous caressent ou qui nous transpercent parfois, et pourtant on a l'impression de ne rien connaître d'Étienne Dao. On en saura plus grâce à notre invité, le journaliste Christophe Comte, sur son enfance et ses inspirations.
Vous avez écouté combien de chansons de Dao pour préparer l'émission ?
40 ce matin, j'ai tellement aimé.
Et c'était du bonheur. Allez, tout de suite, on ouvre notre livre d'histoire à la page mai 68.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. C'est le premier pavé de mai 68. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Peu avant, à l'intérieur de la Sorbonne, un certain Cohn-Bendit et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, la curiosité est un vilain défaut.
Mai 68, où comment un mouvement étudiant s'est transformé en grève générale, paralysant le pays, menaçant l'autorité du général de Gaulle. On revit cette époque avec l'un de ses acteurs. Bonjour Serge Julli.
Bonjour.
Soyez le bienvenu chez nous.
Bienvenue, heureux de vous retrouver sur RTL. Vous êtes journaliste, cofondateur du quotidien Libération. En 68, vous avez 25 ans, vous n'êtes plus étudiant. Vous faites quoi ?
Je suis prof. Je prépare au collège Sainte-Barbe, qui était sur la colline du Panthéon. Qui a fermé ses portes depuis, un collège mixte, et je préparais des classes préparatoires à des écoles comme les vétos, pharmacie, etc. Et voilà, il se trouve que mon épouse, à l'époque, était bibliothécaire à Nanterre, et donc elle a suivi les événements assez fidèlement. Et
parce que tout commence à Nanterre. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ça commence même le 22 mars, on dit mai 68, mais ça commence bien avant.
Ça a commencé avant.
Ouais, évidemment, le mouvement, c'est même une lame de fond internationale, on va l'évoquer. Ça commence le 22 mars quand un certain Daniel Cohn-Bendit lance cet appel, donc à la faculté de Nanterre.
Nous déclarons aujourd'hui à la faculté de Nanterre que nous ferons tout ensemble, tant dans ce meeting qu'à la suite de ce meeting, que pendant toute la semaine prochaine, nous ferons en sorte d'obtenir le droit d'expression politique. Nous lutterons jusqu'au bout contre l'administration pour avoir le droit de nous exprimer politiquement quand on le veut, où on le veut, dans les locaux de cette faculté.
Archives RTL dénichées par Antoine De Vita. On va s'appuyer sur
Il fait référence à la liberté d'expression politique à l'intérieur de la faculté. C'est très exactement comment a commencé le mouvement au niveau international. Ça commence à Berkeley, la grande université de San Francisco, en 1964, très exactement sur ce thème. D'une certaine manière, je profite de l'occasion pour dire, c'est un mouvement mondial qui n'a pas commencé en France, voilà, qui a commencé, entre autres, aux États-Unis, le premier grand mouvement universitaire de cette époque. C'est à Berkeley.
Est-ce que c'est vrai, Serge Julli, que la toute première revendication française, cette fois, c'est une histoire de dortoir ?
Oui, à la faculté de Nanterre, dans le campus. Les filles ont le droit d'aller dans les dortoirs des garçons, mais pas la réciproque. Les garçons n'ont pas le droit d'aller dans les dortoirs des filles. Donc, il y a Daniel Cohn-Bendit et un peu son groupe un peu anarchisant envahit... le dortoir. Et
vous y étiez ce jour-là à Nanterre ?
Non.
Comment vous réagissez quand vous voyez Cohn-Bendit la première fois ? Est-ce que vous êtes bluffé déjà par le bonhomme ?
Oui, c'était immédiat parce qu'il avait deux qualités. C'est la raison pour laquelle il a incarné tout ce mouvement et ce printemps-là. Il avait une capacité d'interpellation de tout le monde. Moi, je l'ai vu interpeller Aragon, mais aussi bien les ministres de Gaulle. Une capacité d'interpellation très forte avec une dose d'insolence énorme. Donc, tout Cohn-Bendit tient dans ces deux traits de personnalité et qui, d'une certaine manière, résume ce que fut ce printemps. C'est une interpellation, c'est une capacité d'interpellation de la société française à l'égard de ses hommes politiques, à l'égard du fonctionnement de la société.
C'était pas qu'une histoire de dortoir qui l'animait
Évidemment pas. On peut pas réduire le...
C'est quoi? C'est une jeunesse qui se sent à l'étroit dans
Alors,
cette société-là?
Il y a deux choses. Il y a d'abord un problème démographique. C'est très simple. En 1950, en France, il y a 5% de la classe d'âge qui a le baccalauréat. Ouais. En 67, on passe à 12%. Et en 68... En 66, pardon, 12%. Ouais. Et en 67, en un an, ça double. On passe à 25% de la classe d'âge.
Donc ça craque.
C'est très simple.
Ça craque,
ça craque de partout. Et ça craque de partout. Pas simplement en France. Ça craque dans le monde entier.
Alors,
le monde
vous...
entier a sous-estimé le boom, le baby boom, qui produit évidemment des besoins incommensurables en locaux. En enseignant, et tiens, c'est pas 3 enseignants de plus, ouais. C'est il faut doubler les facultés, tripler les facultés. Donc, on est face à ce problème, que ce soit à Tokyo, à Los Angeles ou à Paris.
C'est ce que vous racontez en préface de ce livre 68 années choc, livre dirigé par Patrick Mahé, publié chez Plomb. Votre longue préface est intitulée Une vague mondiale, Serge Julie. Mai 68 est dans notre livre de curiosité sur RTL. On va revivre ensemble ces grandes manifs, avec leur violence forcément.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce sont de véritables scènes d'émeutes qui viennent se passer en ce moment sur le boulevard Saint-Michel. Des étudiants entourent un bus de la RATP qui a foncé dans le gros des étudiants et ils sont en train de l'entourer et de frapper sur les portes. Mais tout à l'heure, ce sont des quarts de police qui ont été pris à partie par les étudiants qui étaient armés de parpaings, de gros pavés et qui ont attaqué les quarts de police.
Archive RTL qui date du 3 mai 1968. Serge Julie, qu'est-ce qui va déclencher cette manifestation?
Alors, ce qui déclenche le prétexte, là, en l'occurrence, l'étincelle, c'est la police entre à la Sorbonne. Vous savez que la tradition universitaire, démocratique, depuis le Moyen-Âge, c'est les forces de l'ordre n'entrent pas dans les facultés.
Et là, pourquoi voilà. Elle doit entrer, la police,
Alors,
à la Sorbonne?
Elle y entre parce que Danny Cohn-Bendit et d'autres passent en conseil de discipline. Ce conseil de discipline siège à la Sorbonne. Et il y a un meeting de protestation à l'intérieur de la cour. La police entre et arrête tout le monde. Donc c'est un acte d'autorité, un autoritarisme même, on pourrait dire, assez arbitraire, et qui déclenche un geste que personne n'avait jamais vu, en tout cas... Moi qui avais beaucoup manifesté, je n'avais jamais vu.
Vous étiez choqué?
Quelqu'un sur le boulevard Saint-Michel trouve un pavé, je ne sais même pas comment il l'a trouvé, trouve un pavé et l'envoie sur un quart de police qui passe, un seul quart de police qui passe, et le brigadier qui conduisait ce quart de police est grièvement blessé d'ailleurs. Par ce jet de pavé, puisque le pavé aboutit. Ça démarre comme ça. Il n'y a pas eu de plan, il n'y a pas eu de chef d'orchestre. Ça démarre comme ça.
Et ensuite, les manifestations...
D'autres étudiants voyant ça, d'autres personnes passant, on ne sait pas l'identité de ce lanceur, de ce premier lanceur. Ça se répand. Dans l'après-midi, ça se répand. Et puis, il y a une petite barricade qui fait 30 cm de haut. À la hauteur d'ailleurs où a eu lieu ce premier pavé. Et ça démarre comme ça. Donc c'est intéressant, ça a démarré comme ça là-dessus.
Il y en a eu beaucoup d'autres des manifestations. Est-ce qu'elles étaient forcément violentes, les manifestations?
Alors
Julie,
ça, la question de la violence est une autre chose, parce que je crois que d'abord, on résume mai 68, on est 50 ans après, il y a eu 4 morts.
En tout, dans toute la France.
4 morts. Dans toute la France, il y a des manifestations.
C'est 4
partout.
De trop, mais ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays.
Alors, il y en a 2 qui sont à Sochaux au moment de la reprise du travail. Ce sont des ouvriers qui sont tués par des gardes mobiles. Donc, il y a eu un usage des tirs ont eu lieu. L'enquête semblait montrer que les gardes mobiles étaient dans une situation assez désespérée, disons, compte tenu de la pression qu'il y avait sur eux. Et puis, il y a deux autres victimes. Il y a un commissaire de police qui est écrasé par une voiture qui a été lancée à Lyon, sur un pont à Lyon. Et puis, il y a un jeune lycéen qui meurt à Flins au moment de la reprise du travail. Voilà. C'est tout et pour tout. Et donc, excusez-moi, j'ajoute un mot. Oui. C'est... il y a eu une auto-limitation de la violence au printemps 68. C'est-à-dire, à aucun moment, quelqu'un dans la foule aurait pu se procurer un pistolet et tirer. Personne n'a fait ça. Mmh. Et, d'une certaine manière, les forces de l'ordre, Georges Pompidou veillait au grain, sans doute, sur ce niveau de violence quelle réponse il fallait faire. Les forces de police se sont auto-limitées. C'est-à-dire, il n'y a, mis à part les tirs à Sochaux, il n'y a eu aucun tir avec des nuits de barricades terribles. Avec,
On va écouter une autre archive, Serge Julie. Et écoutez bien le début. Les journalistes de RTL, eux aussi, doivent faire attention.
Attention, attention, François, il y a un pavé.
Les policiers se sont retranchés derrière leur car. Ils se protègent avec leurs boucliers. Quelques boulons volent.
Maintenant, ce sont les policiers qui viennent de passer à l'attaque. Le front des étudiants a reculé. C'est une véritable bataille rangée. Les étudiants attaquent à coups de pavé et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes.
CRS-SS, c'était l'un des slogans de mai 68. Il y en a eu beaucoup
c'est
d'autres.
C'est un vieux slogan. Vous savez.
Alors justement, faites l'amour, pas la guerre. D'où ils sortent ces slogans? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont chargés de les inventer?
D'abord, ce sont des histoires différentes. Ouais. CRS-SS, c'est les grèves de 47.
Alors on raconte
ça. C'est les mineurs qui sont en grève. Il y a un soulèvement minier dans le nord de la France et dans l'est de la France. Et on envoie les CRS, là en l'occurrence, ils tirent, ce qui est un peu différent. On est juste après la guerre, les mineurs inventent ce slogan CRS-SS. Pourquoi il est repris? Parce que il y a à la fois une auto-limitation de la violence et en même temps, c'est très violent. En même temps, il y a chaque nuit d'affrontement, il y a 1000, 1500 blessés. Il y a énormément. Il y a une surprise. Ce qui va amplifier 68, c'est que les étudiants eux-mêmes, la population parisienne, en France, les gens sont stupéfaits de la violence, de la répression. C'est-à-dire, il y a des milliers de blessés. C'est stupéfiant. On n'avait pas jamais vu ça, en tout cas, dans les années récentes. Et ça va contribuer, évidemment, à la journée du 13 mai. C'est-à-dire le fait que l'extension absolue de...
L'extension et le mouvement qui prend de l'ampleur, d'ailleurs, qui manifeste aux côtés des étudiants. Comment réagit le pouvoir gaulliste? Réponse dans un court instant sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La manifestation de la place de la République vient de démarrer. On avait attendu longtemps les étudiants, ils sont arrivés, et aussi sous une immense banderole blanche en lettres rouges, étudiants, enseignants, travailleurs, s'avancent les 21, les dirigeants de la CGT, de la CFTT, de la Fédération d'éducation nationale et de Force ouvrière.
On revit mai 68 avec Serge Julie, l'un des acteurs du mouvement devenu ensuite patron de presse, l'un des grands patrons de presse français. Serge Julie, on vient de l'entendre là dans cette archive qui date donc du 14 mai. Le mouvement s'étend.
C'est le 13 mai.
Alors c'était quoi le 13 mai?
13 mai, face à une semaine comme ça de violence, ouais. Plusieurs manifestations réprimées assez durement, sans l'excès d'une tuerie. Ouais. Mais durement, avec de nombreux blessés, il y a une stupéfaction française et il y a un appel à protester contre cette répression. Et il y a 1 million de personnes. Voilà. Et parce que les syndicats n'ont pas le choix, les syndicats, la plupart, sont hostiles. La CGT est évidemment hostile, comme le Parti communiste, à ce mouvement, à cet événement.
Parce qu'il leur échappe
totalement, mais... parce qu'ils ont un rapport avec le gaullisme qui n'est pas celui-là, hein, un rapport de co-gestion avec le gaullisme. Et donc, ils ont les choses que n'aiment pas De Gaulle, ils sont partagés par les communistes. Et donc, mais c'est plus fort parce que, comme le mouvement
porte tout,
il faut monter dans le train.
D'accord.
Et il se trouve que ce million... à Paris, des manifestations ont lieu partout en France, bah, ça provoque un mouvement de grève générale.
Mais alors ça va jusqu'où la paralysie du pays? Je disais tout à l'heure, la France paralysée. Et par exemple, dans des rouages de l'État, je ne sais pas, dans les ministères, est-ce qu'il y a des policiers qui ne veulent plus
d'ailleurs,
agir,
qui désertent? Comment ça se passe? Je vais très vite, mais il y a une anecdote qui est très drôle. C'est le fils, l'amiral de Gaulle, qui raconte qu'à la fin du mois de mai, donc juste avant que son père n'aille en Allemagne, il veillait à la porte de son bureau avec un pistolet à la ceinture parce qu'il avait peur que les gardes mobiles fassent défection dans la garde de l'Élysée. Donc, mais moi, j'ai vu des ministères totalement vide, c'est-à-dire les concierges étaient partis, les huissiers étaient partis, l'ensemble des secrétaires étaient en grève, tout le monde avait disparu. Donc, c'est ce qui fait dire d'ailleurs, même s'il y avait une certaine maladresse à François Mitterrand, après le 24 mai d'ailleurs, il dit il n'y a plus d'État. C'est pas faux. C'est-à-dire une partie de l'État est totalement paralysée. Alors, bon, De Gaulle prend une initiative... Alors,
on en parlera tout à l'heure, ça. Un mot, Mitterrand, Mendès, Pierre Mendès-Frouas, ils ratent un peu le coche.
Ils ne sont pas dans le coup, globalement. D'abord, ils ne sont pas, surtout Mitterrand, mais pas en sympathie avec mai 68.
Ils ont quel âge? Ils font quoi à l'époque?
Je veux dire, François Mitterrand, il ne faut pas l'oublier... Il avait mis en ballottage De Gaulle en 65, donc il se trouve être en position quand même de leader de la gauche. Mais il ne va pas se présenter, il a conscience qu'il avait fait un pas de travers. Il ne se présente pas à l'élection présidentielle de l'année suivante. Hein. En 69, il ne se présente pas. Donc, et Mendès France, il est retiré des voitures. Donc... il y a un côté, il se passe un événement historique, mais d'une certaine manière, ils n'en sont pas. Voilà. Donc, quand il dit il n'y a plus d'État, c'est à moitié vrai. La meilleure preuve, c'est De Gaulle va réagir en faisant une dissolution, donc en provoquant des élections générales. Puis il y a une négociation avec les syndicats, donc il n'y a pas la paralysie.
Et il y a cette phrase du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, le 19 mai au journal télévisé, justement.
Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation?
Je ne pense pas, n'est-ce pas? Mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non.
Voilà, De Gaulle qui va reprendre la main, on vous raconte comment dans un instant sur RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ici l'Élysée. À 11h24, en effet, j'avais vu sortir la grille de l'Élysée deux voitures. Dans la première, le service de sécurité. Dans la deuxième, assis à l'arrière, le général de Gaulle et Madame de Gaulle. Nous avons hésité à lancer la nouvelle. Où allait le général de Gaulle? Qu'allait-il faire? Allait-il voir son médecin? Allait-il voir sa famille? Il y a une seconde, une nouvelle officielle nous apprend que le général de Gaulle est simplement parti pour 24 heures à Colombey se reposer.
On raconte mai 68 dans La Curiosité avec le journaliste Serge Julie, cette disparition du général de Gaulle. C'était un coup de blues ou de la stratégie politique?
Peut-être que c'était un coup de blues au départ. Mais
envie de prendre
ça
l'air.
Ça s'est révélé, je veux dire, une... un joli coup, quoi. Je veux dire, il a avec un sens de la mise en scène, mais c'est un grand metteur en scène, De Gaulle. Donc, il a tragédisé un peu, si j'ose dire, le moment. Il a raté son coup le 24 mai. Il a annoncé un référendum. Tout le monde lui a dit ça va pas la tête. Même sa majorité, enfin, personne n'en voulait. Donc, il a fait le coup d'habitude, et puis, comme d'habitude, et puis, finalement, personne n'en veut. Et Donc il y a d'où cette perception, il n'y a plus d'État, quoi. On ne sait plus où on est exactement ce plan politique. Et De Gaulle va avoir cette idée d'aller voir Massu. On connaît l'échange Massu, commandant en chef des forces d'occupation françaises en Allemagne. Donc on connaît l'échange, toujours gaulliste, Massu. Non, toujours aussi con, Massu. Et
Massu lui répond.
Massu répond, toujours gaulliste, mon général. Donc voilà, en fait, c'est d'une certaine manière, dès qu'il y est allé, il revient. Et du fait, ils emballent une réaction politique très, très organisée. Dissolution de l'Assemblée, donc des élections générales. On est en démocratie. C'est la Constitution, c'est pas un coup de force. Et deuxièmement, une manifestation qui va faire pendant au 13 mai, c'est le 30 mai, une manifestation organisée par Jacques Foccart et Charles Pasqua, etc. Et il y a 1 million de personnes. Donc d'une certaine manière, il y a une force qui s'oppose à ce mouvement. Qui a pris corps au cours du mois de mai.
Merci beaucoup, Serge Julie. On aura beaucoup d'autres occasions. On est qu'en janvier
On est qu'au début.
Voilà, on est qu'au début.
Vous viendrez nous voir.
De revivre ensemble mai 68. Je rappelle que vous signez la préface du livre 68, Année choc, dirigé par Patrick Mahé, publié chez Plon. À bientôt.
Merci.
Vous écoutez RTL.